Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. Je voudrais que nous nous appliquions. Je sais que certains le font d'une manière régulière, mais beaucoup de chrétiens, je le sais, sont légers. Ils veulent une prédication, c'est tout. Ils veulent un message intéressant. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la parole de Dieu, c'est comme un repas. Moi, j'ai remarqué, il y a des femmes, quand elles mangent, « Oh, ce gâteau, tu peux me donner la recette ?» Et elles le marquent. Et vite, combien tu mets de sucre? Vous savez, moi ça serait vite fait, je vous le dis. Mais il y a des femmes, elles veulent au gramme près. Est-ce qu'elles ont raison? Eh oui, elles ont raison. Parce qu'il y a des gens qui aiment leur travail, qui aiment bien cuisiner. Et spirituellement, on devrait dire, tiens, mais quels sont les versets que le pasteur va citer? Que Dieu veut me donner? En ai-je besoin? Alors nous allons faire une lecture dans Matthieu chapitre 9. Si vous avez du mal dans le couple, dans la famille, écoutez bien cette prédication, s'il vous plaît. Si vous souffrez dans votre foyer, s'il y a des choses qui ne collent pas, écoutez bien, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 9. C'est vraiment important dans le cadre du couple ce qu'on va lire. Matthieu, chapitre 9, versets 16 et 17. N'oubliez pas que tout ce qui est écrit est utile. Matthieu 9, 17, 16, pardon. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Dans Ésaïe, au chapitre 48, il y a un rappel de ce que l'instruction biblique est toujours pour notre bien. Ésaïe 48, verset 17-18. Vous connaissez bien ce verset, car je l'ai souvent cité, mais je vous rappelle qu'il est écrit dans ce texte que Dieu nous instruit pour notre bien. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Amen. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Dans Éphésiens, nous en avons lu un petit verset tout à l'heure pour la présentation du petit de Vincent. Dans Éphésiens, au chapitre 5, dans un contexte de l'Église, de la marche de l'Église, puisque Éphésiens, c'est une épître qui nous parle sur le corps de Christ, il y a tout un enseignement sur la famille, car nous allons voir que nous ne pouvons pas séparer la vie sociale de la vie familiale. Ce n'est pas possible spirituellement. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Il est demandé certaines choses aux épouses. Il est demandé certaines choses aux époux. Et franchement, nous ferions bien de nous y atteler à cela. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes. Que chacune soit soumise à son mari. J'en profite parce que je n'aurai pas le temps de le voir aujourd'hui. Il n'est pas dit que chacune soit esclave de son mari. Non, je le dis parce que quand on voit comment certains maris parlent à leur femme, la soumission, c'est autre chose. On n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais c'est une bénédiction. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est agréable. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et après, il y a encore des enseignements sur les pères, sur les serviteurs, sur les patrons, etc. Mes frères et sœurs, c'est un sujet qui me préoccupe vraiment. Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps très difficiles. C'est écrit, c'est prophétisé, je ne vous apprends rien. Ces temps difficiles font bien sûr qu'il y a des difficultés, qu'il y a des épreuves supplémentaires, qu'il y a des combats, qu'il y a des luttes, des manquements, des péchés, etc. Tout cela aggrave la situation. Vous le savez que c'est écrit, je ne vais pas rappeler les prophéties. Et pour cela, Dieu nous instruit pour notre bien. Il nous a donné des lettres, comme cette épître aux Éphésiens. Alors, nous, on a le réflexe. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir découpé les lettres en chapitres et en versets, est-ce que c'est bien? Bien sûr, c'est bien. Pourquoi? Ça nous donne de suite de trouver un texte dans la Bible. C'est extraordinaire. En quelques secondes, vous trouvez le texte qu'on vous propose. C'est une bénédiction. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Les épîtres étaient qu'une lettre. Il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset, ça faisait un tout. Et le découpage de la parole de Dieu fait que nous saucissonnons les commandements à la place de les mettre tous ensemble. Alors qu'il y a un rapport. Vous voyez, il parle de l'Église dans cette épître, il parle du corps de Christ. Mais enfin, dans le corps de Christ, il parle du lien étroit qu'il y a entre le comportement social. Parce que est-ce qu'on peut séparer la vie sociale de la vie professionnelle, de la vie conjugale, de la vie de l'Église? C'est quoi la vie spirituelle? Si vous deviez mettre sur un papier, la vie spirituelle, c'est... Qu'est-ce que vous écririez? Sincèrement, je pose des questions pour que nous réalisions mieux ce que je vais vous dire par la suite. Si vous deviez écrire, voilà, pour moi, la vie spirituelle, certains écriraient, je le dis, c'est pas méchant, la vie spirituelle, ben, c'est aller à l'église, lire la Bible, prier, chanter, prendre le pain et le vin, voir des frères et des sœurs, voilà, c'est ça la vie spirituelle. Mes frères et sœurs, la vie spirituelle, c'est pas ça. La vie spirituelle, c'est la capacité qui est donnée à l'homme de marcher selon Dieu. J'ai cherché une définition qui correspond le mieux. La vie spirituelle, c'est la capacité qui est donnée à l'homme de marcher selon Dieu. Parce que quand même, la majeure partie de notre temps, vous la passez avec qui? Avec les autres. Que vous le vouliez ou non, le temps que nous avons, nous le passons avec des gens. Nous le passons avec des gens, au travail, à la maison. Combien d'heures vous passez à la maison? Par jour. Combien d'heures vous passez au travail? Combien d'heures vous passez à l'église? Etc. Il faut comprendre, Dieu sait ces choses. Et il faut que nous le gérions cela, dans la famille. La famille, est-ce que je fuis la famille? Est-ce que je fuis mon foyer? Est-ce que je fuis mon conjoint? Et dans chacune des activités que nous avons, le travail, la vie sociale, l'église, mais l'église quand même, qu'on le veuille ou non, c'est pas beaucoup l'église, c'est combien d'heures par semaine? 3, 4? Bon. Mais dans ces activités que nous avons partout, nous devrions savoir si nous sommes spirituels ou pas. C'est pour ça qu'on a pris ce texte dans Matthieu. Dans Matthieu, qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Je le relis, parce que certains peut-être si vous le lisez pour la première fois, vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On le relit quand même, relisons-le sérieusement. On va prendre le temps, je veux prendre le temps. Je suis peiné de voir tant de couples. Vous savez, toutes les semaines, quand je discute avec les pasteurs, dans mon église, il y a un divorce. Dans mon église, il y a un divorce. Dans mon église, il y a encore des divorces. Franchement, ça vous fait de la peine. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, ça? Non. Alors, on ne juge pas. Franchement. Et si vous avez subi un divorce, je vous assure, mes frères et sœurs, si vous pensiez qu'il y a dans mon cœur une forme de reproche, je vous en supplie, pardonnez-moi parce que ce n'est pas du tout le but. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que des couples qui ont été bénis par Dieu se déchirent. Ce n'est pas possible. Moi, je n'y crois pas. Dans Matthieu 9, même si on a tous des problèmes, c'est Matthieu 9, 16. Hein. Matthieu, je suis dans Marc, c'est sûr que je... Matthieu 9, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus a dit ça? Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, mes frères et sœurs, que si on veut faire ce que Dieu demande, sans être régénéré, sans être né de nouveau, ce n'est pas possible. Et c'est bien d'avoir des instructions. Et c'est bien d'avoir des enseignements sur le couple. Et c'est bien d'avoir des enseignements sur la sexualité. Il y en a. On peut le faire dans le cadre de ce qui est enseigné. Et je le ferai. Vraiment, je le ferai. Avec pudeur et sérieux. Mais ça ne sert à rien d'enseigner certaines choses, si belles soient-elles, si nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est comme les parents qui demandent aux enfants de se comporter comme des chrétiens, quand ils ne sont pas encore convertis. Ça, c'est l'école de l'hypocrisie, ça. Qu'on demande aux enfants d'avoir un bon témoignage, au niveau moral, etc., de bien se tenir, c'est une chose. Mais on ne va pas faire de nos enfants des hypocrites en leur faisant croire qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Dans la Bible, il y a plein de passages qui sont adressés au couple, à la vie de famille, mais ces versets, on ne peut pas les prendre au détriment de tous les restes. Il faut prendre l'ensemble. La vie chrétienne, c'est un tout. C'est apprendre à bien réagir parce que les épreuves... On en parlait avec un couple cette semaine, on parlait de nos couples, de nos deux couples. Et on disait, est-ce que ceux qui divorcent ont eu les mêmes épreuves que nous? Je ne pense pas être dans le jugement et dans la comparaison, surtout pas. Mais est-ce qu'on n'a pas tous les mêmes épreuves, plus ou moins? Oui, on va le voir, vous allez voir. Pourquoi donc certains cèdent et certaines craquent? Il y a plusieurs explications, on les verra au fur et à mesure, mes frères et sœurs. Mais la vie chrétienne, c'est apprendre. Je t'instruis pour ton bien. Donc, Seigneur, je dois apprendre à réagir devant ces crises, devant les difficultés qui vont se présenter, de tout autre. Ça peut être la maladie, ça peut être le deuil, ça peut être la tentation, etc. La Bible parle de plein de familles. Et c'est ça qu'on va voir un peu ce matin, avant d'aller plus profondément dans le couple. Vous avez remarqué les couples dans la Bible? Peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais il y a plein de couples dans la Bible, plein de familles qui ont eu un témoignage positif ou pas. Il y a des exemples extraordinaires, il y en a d'autres, il ne vaut mieux pas les imiter. Et quand vous regardez bien, ça c'est le travail des pasteurs, c'est clair, mais quand vous regardez bien, vous vous rendez compte que la réaction de ces couples, le comportement de ce couple était proportionnel à leur foi. C'était la foi qu'ils avaient qui faisait qu'ils réagissaient en bien ou pas. C'est vrai, il vous sera fait selon votre foi. Regardez Adam et Ève, c'est le premier couple, ils étaient quand même dans un environnement assez bien. Vous ne trouvez pas que c'était bien? Est-ce que c'était bien l'environnement dans lequel étaient Adam et Ève? Moi, je pense que ça devait être bien. Ils ont été placés devant un problème, la tentation. Tous les deux. Tous les deux ont été... Est-ce que les couples sont amenés à connaître la tentation? Est-ce qu'il y a des tentations dans le couple? Bien sûr. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand la tentation est arrivée, ils ont chuté ensemble. Oui ou non? Ils ont chuté ensemble, on ne va pas y revenir. Là, devant cette épreuve que Dieu leur présentait, la responsabilité, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais pourquoi Dieu n'a pas créé que le bien ?» Mais si Dieu avait créé que le bien, l'homme n'aurait pas été libre. Pour être libre, il faut être responsable. Bon, ce n'est pas un sujet que je vais aborder. Mais on ne peut être libre que si on a la liberté de choisir. Si je vous dis « Tu es libre, tu vas te marier ?» Bon, tu peux te marier avec elle. Voilà, c'est elle avec qui tu te maries. Tu n'as pas le choix. Est-ce que la personne, elle est libre? Non. Il faut qu'on ait la liberté. La liberté, elle repose sur le choix. Et le choix, il repose sur la responsabilité. Donc Dieu met Adam et Ève devant une tentation, devant le fruit de la connaissance du bien ou du mal. Alors, l'homme est-il capable de maîtriser le bien du mal? Voilà, c'est une question qu'on peut poser. Et il a cru que oui. Il a cru que oui. Est-ce qu'on est capable toujours de savoir ce qui est bien de ce qui est mal? Après le chemin, soyons honnêtes. Hein. Soyons honnêtes. Prenons l'exemple de la poudre. Je suis sérieux. La poudre, ça a été inventé par des juifs. La poudre, est-ce que c'est une belle invention? Pourquoi ça a été inventé au départ? La poudre, ça a été inventé pour extraire les minéraux dans les carrières. Est-ce que c'était une bonne invention? Mais c'était génial. Extraire le charbon, etc., toutes sortes de minerais, pour pouvoir construire, bâtir, chauffer, etc. Et vous avez vu ce qu'on a fait de la poudre? Vous avez vu ce qu'on a fait de la poudre? Et c'est pour cela que l'homme n'est pas capable. C'est pour ça qu'on a besoin d'être instruit. Et ne nous imaginons pas que même le meilleur au milieu de nous, si ça existait, même le plus calé au milieu de nous, il a toujours besoin d'être instruit, d'apprendre. Ne vous imaginez pas que parce que vous avez 20 ans de mariage, vous savez tout. Lot et sa femme. Lot, vous connaissez l'histoire de Lot et sa femme. Qu'est-ce qu'il y avait à Lot? Qu'est-ce qui manquait à Lot? Qu'est-ce que Lot aurait répondu ce matin à la question que j'ai posée? Si vous deviez répondre à la question, en ce moment, il me manque ça. Qu'est-ce qui manquait à Lot? Eh bien, il manquait à Lot. Écoutez bien, mes frères et sœurs, parce que ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens ou de croyants. Ce qui manquait à Lot, c'était d'avoir fait une véritable expérience avec Dieu. Lot, écoutez bien, Lot, vous avez lu la Bible, je ne vais pas reprendre les textes parce que ça prendrait trop de temps. Lot marchait, c'est écrit comme ça, Lot marchait avec Abraham, avec tonton. Il suivait tonton comme certains suivent papa et maman à l'église. Oui ou non? Suivez tonton, c'est écrit. Lot marchait avec Abraham. Quand il nous est parlé d'Abraham, Abraham, lui, il marchait avec Dieu. Vous voyez? Et c'est là la différence. Et on le voit, il y a des chrétiens qui viennent tant que les tontons viennent. Tant que les papas, les mamans viennent. Il y a des enfants, ils suivent tant qu'ils sont mineurs. Et dès qu'ils sont majeurs, papa, maman, j'ai plus besoin de venir aller. Ils suivent papa, maman, tonton ou pépé. C'est comme ça. Et quand il y a une différence ou un choix à faire, eh bien, là on voit vite dans quel état sont les gens. Il y a eu une séparation. C'est Dieu qui a provoqué cette séparation par le biais d'Abraham. Et Lot aurait dû donner justement la priorité à son oncle. Il a choisi pour lui. Mais il n'y avait pas que Lot, il y avait sa femme aussi. Vous allez me dire, à l'époque, les femmes, elles avaient moins leur mot à dire. C'était bien ou c'était pas bien? Bon, le sujet est clos. Lot, il a opté pour le matérialisme. Lot, il a opté pour le matérialisme. Et sa femme devait être d'accord. C'est vrai, je le répète quand même, qu'à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas grand-chose à dire. Ce qui n'était pas forcément... Bien, ça dépend de la femme qu'on a. Non, mais sérieux, j'ai dit une ânerie? J'ai dit une ânerie? Ben, vous le retirerez, hein? Vous le retirerez. Mais, ils ont fait un choix. Écoutez bien, mes frères, c'est parce que la vie, elle est faite que de choix. Vous écoutez une exhortation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais quand même, que vous le vouliez ou non, dans notre cœur à chacun, cette exhortation fera que nous dirons, oui, c'est vrai, avec mon épouse, on est confronté à des tentations, ce n'est pas les mêmes. On est confronté à des choix, ce n'est pas les mêmes. On est confronté à des décisions, comment on va faire? Parce que l'autre, bon, ils ont choisi ça. D'accord, au départ, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais quand l'annonce du jugement est venue, parce que quand on étudie Lot et sa femme, qui ont fait tel choix, ils ont préféré le matérialisme, disons-le comme c'est. Je ne dis pas que Dieu est contre que nous possédions certaines choses matérielles, mais lorsque ces choses matérielles nous empêchent d'avoir une véritable communion avec Dieu, il faudrait commencer peut-être à réfléchir. Lorsque l'annonce du jugement est venue, ce qui va arriver aussi, le couple a été invité à se sauver. Vous savez comment ça s'est passé, les anges sont venus, et vous avez vu vraiment la difficulté que ça a été. Donc vous savez ce qui s'est passé, bon, la femme de l'hôtel elle est partie, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. Alors c'est des choses qui nous dépassent, ce n'est pas le moment de les expliquer. Mais il y a quand même des choses, est-ce que vous vous seriez retourné en arrière, vous, mesdames? En sachant que deux de vos filles sont restées à l'endroit où elles vont être jugées? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce qu'on peut juger? Mes frères et sœurs, pourquoi j'ai posé cette question? Pour que nous nous gardions de juger. Parce que quand nous jugeons, si on juge le péché dans l'église, ça c'est bien. Mais gardons-nous de juger le comportement des gens. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas leur prière exaucée parce qu'ils s'ingèrent dans les affaires des autres. C'est écrit ça ou c'est pas écrit ? C'est écrit. C'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse. Elle a regardé en arrière, bien sûr, on lui avait dit ne te retourne surtout pas en arrière. Mais quel drame pour les filles. Les deux filles, quand même, c'était ces deux filles. Quel drame pour les gendres aussi, c'était quand même les gendres. Vous aimez vos gendres, vos belles filles ? Eh ben oui, vous les aimez ? Il y en a un ou deux ? Il y en a un. J'aime mes gendres. Les gendres qui sont restés, ils se sont moqués de Lot. Ils ont cru qu'il plaisantait. Vous savez, quand notre piété dans notre famille amène nos enfants ou nos gendres à croire qu'on est tout le temps en train de blaguer, je pense qu'il devait y avoir un problème dans le comportement de l'autre, croyez-moi. Dont les deux filles ont été perdues, les deux gendres ont été perdus. Deux autres filles, elles, sont parties avec Lot. Vous savez ce qui s'est passé par la suite ? Elles ont enivré leur père. Elles ont couché avec lui. Elles ont donc commis l'inceste. Et les deux enfants qui sont nés de cet inceste, les Ammonites et les Moabites, qui ont été une écharde dans l'histoire d'Israël tout le long. Parce que ce sont les fruits de la chair. La chair, ça nous met en vrac tout le temps. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que quand on choisit pour le matérialisme, au départ, je le répète, moi je crois que Dieu bénit et que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit en premier. Il faut que tous les biens matériels, toutes les grâces que vous avez, c'est bien, mais que ça soit toujours en second. L'amour de l'argent, tout ça, c'est la racine de tous les maux. Et pourtant, c'est une bénédiction que l'Église ait pu mettre la clim il y a une vingtaine d'années. Est-ce que c'est bien ? Ben, pensez donc. Job et sa femme, un autre couple, on ne va pas les prendre tous, mais quand même, c'est bien que vous compreniez qu'on ne peut pas dissocier le spirituel, du social, du familial, du sexuel. Je le dis vraiment, c'est sérieux. Job et sa femme, est-ce qu'ils ont connu une épreuve ? Est-ce qu'ils étaient intègres ? Ben oui. Ils étaient archi. Lot, ils ont connu une épreuve parce qu'ils ont choisi le matérialisme. Job et sa femme, eux, ils n'ont pas choisi. Est-ce qu'ils étaient bénis ? Ben, ils étaient bénis un peu, oui. Beaucoup, très. Mais ils ont eu une épreuve. Il y a des épreuves qui mettent les couples en péril. Il y en a. Bon, là, il y a eu le deuil de 10 enfants. Je sais pas. Moi, j'ai connu une dame qui a perdu ses 4 enfants le même jour et qui s'est convertie. Elle avait perdu son mari 6 mois avant. Dieu permet des épreuves et pourtant, c'est un couple qui marchait droit. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu du discernement. Parce que des fois, on dit, ouais, il est dans l'épreuve, ben, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Eh bien, on se met en vrac avec Dieu. Oui ou non ? Faisons attention de ne pas être dur avec les gens. En tous les cas, il y a plein d'épreuves qui mettent le couple en péril. La maladie. Est-ce que ce n'est pas une épreuve, la maladie ? Ouais. La perte des enfants. Enfin, des épreuves, on pourrait en faire une très longue liste. La perte d'un emploi, est-ce que c'est une épreuve ? Ouais. Et Job a été frappé. Il a été frappé parce qu'il était intègre et que c'était un combat entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu. C'est des choses qui nous dépassent, ces combats spirituels. Franchement, c'est sûr qu'il y a des combats qui nous dépassent. Ça, c'est sûr. Mais ça a failli mal tourner. Parce que la femme de Job, quand elle a vu ça, alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la femme de Job ? Quand elle a vu ça, quand elle a vu qu'elle perdait tous ses enfants, parce que nous, on lit, je le dis d'une manière très simple, nous, on lit, clac, clac, on passe à un autre chapitre, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette femme, tous les matins, quand elle se levait, elle voyait peut-être les 10 tombes là de ses enfants derrière la maison. Je ne sais pas. Et nous, on est là, on survole. Cette femme, dans la douleur, d'ailleurs, elle va dire à son mari, écoute, quand elle voit en plus son mari malade maintenant, elle écoute, maudit Dieu, et meurt. Alors, ce sont des paroles quand une femme parle de cette façon à son mari, ou quand un mari, dans la souffrance, parle mal à sa femme. Il faut en parler, c'est écrit. Est-ce que ça peut arriver, dans la souffrance, de parler mal à sa femme ? Dieu ne fait aucun reproche à cette femme. Vous savez, Dieu va faire des reproches extrêmement sévères aux trois amis de Job qui ont su utiliser leur sagesse et leur intelligence pour le descendre complètement. Vous savez, quand la connaissance biblique fait que nous descendons les gens, maudit Dieu et meurt. Elle n'en pouvait plus, cette femme. Elle n'en pouvait plus. Mais en fait, ça a été l'objet d'un combat parce que le diable, il voulait à tout prix que Job maudisse Dieu. Le couple confronté à l'épreuve de la maladie, du deuil. Mais quand Job a été éprouvé, il a résisté, même à la souffrance de sa femme. Parce que dans un couple, il ne faut pas quand même oublier qu'il y a des moments où on n'est pas bien. C'est grave quand on n'est pas bien tous les deux. Mais quelqu'un peut être pas bien. Ah ben, t'étais pas comme ça quand je t'ai connu. Je pensais pas qu'un jour tu serais comme ça. Vous savez, les reproches, faites faire attention, parce que bon, je suis d'accord que de temps en temps, les uns et les autres, tous, ont besoin de reproches. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on a le droit de faire un reproche à sa femme? Répondez. Est-ce qu'on a le droit de temps en temps de faire un reproche à son mari? Ben bien sûr. Mais s'il n'y a que des reproches, je pense qu'il faudrait quand même être instruit. Moi, j'accepte, je pense qu'on accepte les reproches. Moi, j'en ai souvent des reproches. Mais j'ai aussi beaucoup d'encouragement. Et je crois qu'on doit veiller, mes frères. Parce qu'après, quand Dieu agit, il y a restauration. Vous avez vu, cette femme, de nouveau, elle a enfanté 10 autres enfants. Le couple a fait face à la situation, ils ont été bénis, ils ont eu des garçons, des filles, deux fois plus de biens matériels. Vous voyez, c'est pas un péché que d'être béni. Mais mes frères et sœurs, il faudrait que nous méditions vraiment. Je t'instruis pour ton bien. Parce que les temps, je reviens à mon introduction, parce que les temps sont difficiles. Parce que le diable s'acharne. Parce que si on va le voir en conclusion, je pense. Mais si les couples n'honorent pas Dieu, comment pourrons-nous honorer l'Église? Comment pourrons-nous honorer Dieu si nous n'honorons pas le couple, etc. Ananias et Saphira, vous connaissez ce couple? C'était un couple qui était à Jérusalem pendant le réveil. Et ils s'entendaient bien. Ils s'entendaient bien. Parce qu'on peut s'entendre bien pour faire certaines choses. Ils se sont entendus pour mentir. Ça, c'est un autre sujet dans le couple. Est-ce que nous nous entendons bien avec notre épouse, notre mari, pour mentir? Pour mentir aux autres? Pour mentir à Dieu? Comment si on pouvait mentir à Dieu, parce que c'est écrit quand même. Vous allez me dire, oh, c'est pas grave, moi j'ai pas envie d'avoir d'histoire. Vous savez, il vaut mieux des fois avoir quelques difficultés, mais dire la vérité, qu'être d'accord pour mentir. Parce qu'un jour, ça finira mal. Et ce couple est là dans la Bible, c'est vrai qu'en plein réveil, ça fait de la peine, ils ont été ridicules. S'entendre pour mentir. Je ne sais pas comment vous vivez dans le couple, mais moi je nous encourage tous à vivre dans la vérité. Nous entendre pour vivre dans la vérité. Vraiment. Je vais prendre un autre couple dans le Nouveau Testament, Prisca et Aquila. Alors là, on change de registre. Quel témoignage! Dieu les cite dans sa parole. Paul dit, ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. C'était un couple qui était uni pour servir Dieu. Vraiment. Et je crois que ça serait chouette dans l'Église si tous les couples s'unissaient pour servir Dieu de tout leur cœur. Aquila, ça veut dire l'aigle. Et Prisca, ça veut dire petite vieille. Petite vieille. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, sérieusement, celui qui veut être droit, qui veut être honnête, qui veut être intègre, qui veut garder les principes qu'on est en train de partager et qu'on abordera, parce qu'on abordera des problèmes de la société aujourd'hui qui sont rentrés dans les églises, qui sont archi-graves. Il va falloir que je m'applique à les aborder. Mais mes frères et sœurs, on a vite fait aujourd'hui de taxer de petits vieux, de petites vieilles, c'est pas vrai ? Les gens qui gardent les principes chrétiens. Mon père, c'est un vieux jeu avec ses principes. Ma mère, c'est une vieille folle. Elle ne riait pas. Parce que vous savez, quand on parle comme ça de ses parents, quand on parle mal de ses parents, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas du bon côté. Parce que nos parents, ils peuvent être malades. Ils peuvent aussi traverser des moments difficiles. Ne dites pas, mais moi je ferais mieux qu'eux. Eh bien, prouvez-le. Nous l'avons entendu ça des centaines de fois. Mais moi, je ferai mieux que mon père. Je ferai mieux que ma mère. Avant de le faire, ça, moi, je pense qu'il faudra vous approcher du Seigneur. Et je pense qu'on ne veut pas faire mieux parce qu'on n'est pas dans une compétition dans la famille. On est là pour s'aider les uns les autres. Et les enfants, les adolescents, si Dieu vous a placé dans cette famille, aimez votre famille. Soutenez votre maman. Parce que peut-être vous ne savez pas ce qu'elle traverse, elle ne va pas vous dire tous les matins ce qu'elle souffre. Peut-être elle est malheureuse à cause de vous, à cause de toi, parce que tu t'éloignes de Dieu. Vous savez, des fois on est malheureux à cause des autres, c'est pas vrai ? Et je crois qu'il faut faire attention. Ne taxez pas vite les gens de petits vieux, de petites vieilles, parce qu'ils gardent des principes spirituels. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. On abordera ces choses, je voudrais qu'on les aborde d'une manière sérieuse, parce que c'est notre vie, notre famille. Il y a vraiment un rapport direct entre la vie spirituelle et la vie de famille et la vie conjugale. C'est pour ça que j'ai dit au départ, il ne faut pas séparer les chapitres et les versets pour saucissonner et prendre que ce qui nous intéresse. Il faut tout prendre. Dans l'épître aux Éphésiens, il y a plein de... En tous les cas, l'épître, qui est une épître sur l'Église, se termine avec des conseils donnés aux couples, aux enfants, aux parents, aux employés et aux employeurs. Parce que si vous êtes employé, vous devez savoir comment vous comporter avec votre employeur. Et si vous êtes patron, vous devez savoir comment vous comporter avec vos employés. C'est important. Mais tous ces conseils que l'on va aborder, et c'est vrai que je l'ai à cœur vraiment, ne pourront être mis en pratique que si nous tenons compte de tout. On ne peut pas dire, un mari, je dois aimer ma femme. Vous savez, tout à l'heure, quand on chantait le dernier cantique de son trône de clarté, je pensais, parce que hier je méditais sur Satan, comment il s'est enorgueilli. Satan qui avait été créé, c'est vrai, c'était quelqu'un de brillant, d'intelligent et tout, qui avait été créé pour diriger la louange dans le ciel. Tout ça. Enfin, il avait un poste super haut placé déjà. Et il a voulu s'enorgueillir. Et je pensais, en chantant ce cantique, je pensais à Satan qui s'est enorgueilli. Et je pensais bien sûr à Jésus, puisqu'on chantait ce cantique, qui s'est humilié, lui, le Créateur, qui s'est humilié. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors, il faut tenir compte de tout l'enseignement. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut lire la Bible. Alors ça, c'est peut-être ce que j'enseigne aux pasteurs. Mais fait, quand même, tous les chrétiens peuvent comprendre qu'une lettre, c'est une pensée générale, il y a un tout. Le chapitre 1er, ça parle de notre position en Christ, de notre héritage en Christ. Le chapitre 2, ça parle du salut par grâce. C'est quoi le salut par grâce, ce qui est une bénédiction. Le chapitre 3, c'est la notion de l'Église, le mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'est quoi le mystère de Christ? Eh bien, on l'a lu. C'est que Dieu a une épouse. Le Seigneur Jésus-Christ a une épouse et son Église, et son épouse, c'est l'Église. Et l'Église, ce n'est pas le bâtiment ou les bâtiments. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui sont sauvés par grâce. C'est pour ça que quand on prend le pain et le vin, moi j'ai presque chaque fois envie de me lever, je ne le fais pas parce que je ne veux pas alourdir le moment de la Sainte Cène. Mais j'ai failli le faire ce matin pour rappeler que c'est un moment archi important. Où justement ça nous permet de nous interroger par rapport à la vie spirituelle, mais la vie spirituelle, j'y reviens, c'est notre façon de marcher avec Dieu, donc avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes collègues de boulot, etc., etc. Et c'est après tout cet enseignement, les trois premiers chapitres sur ce qu'est notre position, l'héritage, le salut, que l'apôtre Paul enseigne la relation qui doit exister entre les maris et les femmes. Le mariage représente un lien sacré qui unit Christ à l'Église. Le mariage, c'est sérieux. Pourquoi il est dit que le mariage soit honoré de tous? Même, vous voyez, si vous n'êtes pas baptisé encore, Si vous n'êtes pas marié, parce qu'aujourd'hui le mariage, il est super méprisé. Mais moi, je vous le dis, même si vous n'êtes pas baptisé, même si vous n'êtes pas converti, le Seigneur vous dit que le mariage soit honoré de tous, parce que le mariage représente le Christ qui est uni à l'Église. Si le mariage n'est pas honoré, sérieusement, mes frères et sœurs, en tous les cas, je m'adresse à tous ceux qui sont mariés et à tous ceux qui veulent se marier en étant chrétiens. Si le mariage n'est pas honoré, comment l'Église sera-t-elle honorée? Si l'Église n'est pas honorée, comment l'Église sera-t-elle bénie? Vous voulez une Église bénie? Il ne faut pas faire la comédie avec sa femme, avec son conjoint, arriver à l'Église avec sa Bible sous le bras, alors qu'à la maison, c'est difficile et qu'on n'arrive pas à intégrer, parce que intégrer, ce n'est pas l'intégrisme, on en reparlera, parce qu'il faut expliquer tous les mots aujourd'hui. On peut intégrer des principes spirituels qui vont bénir la maison et l'Église. Paul parle aux hommes, alors ces versets, c'est sûr qu'aujourd'hui on ne veut plus les lire parce que les femmes n'acceptent pas qu'on leur donne des ordres, les hommes n'acceptent pas qu'on leur donne des conseils, etc. etc. Ça va loin cette affaire. Ça va loin. Mais quand Paul parle aux hommes, réfléchissons, Paul est inspiré du Saint-Esprit, il parle de la part de Dieu, il parle aux hommes, il parle aux femmes, il parle au mari, il parle au père. Comment Dieu nous parle-t-il? Parce que c'est ça, Seigneur, parle-moi. Mais en fait, je veux dire, on a toute la Bible. Quand Dieu parle à un homme, quand Dieu parle à sa femme, et vice-versa, il ne parle pas en termes de compétition. Vous avez vu comment le monde... rien que quand on présente des nouvelles élections présidentielles, vous avez vu tout le pataquès qu'ils font pour qu'il y ait la parité au nouveau gouvernement. Vous avez vu la tournure que ça prend. Il faut qu'il y ait autant de ministres femmes que de ministres hommes pour mettre la paix dans le pays. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens donc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On change de sujet. Dieu ne parle pas en termes de compétition. Mes frères et sœurs, on est des hommes, des maris, des époux. Vous êtes des femmes, des épouses, des mères. Vous comprenez bien que dans la pensée de Dieu, il ne peut pas y avoir une compétition. C'est impossible. Dieu parle en termes de complémentarité. Nous sommes amenés à nous compléter l'un l'autre. Nous ne sommes pas là appelés à nous comparer. Des fois, on plaisante. Quand on voit quelqu'un qui conduit mal sur la route, tiens, je suis sûr que c'est une femme. Est-ce que les femmes conduisent moins bien que les hommes? Hein? Non, mais là, je le fais volontairement pour parler de choses, parfois, des clichés que l'on a. Bien sûr que non. D'ailleurs, j'ai entendu qu'elles devraient payer moins d'assurance. La rivalité, c'est pas bon. Mes frères et sœurs, nous sommes dans l'Église, nous sommes des hommes, des femmes, des pères, des frères, des mères, des futures mamans, des futurs papas, etc. La rivalité, je peux vous dire que dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui l'a introduit, c'est le péché qui introduit la rivalité. Alors, on va aborder, pour terminer, juste une pensée qui est mal comprise dans la Bible. Quand, après la chute, qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Écoutez bien, mes frères et sœurs, parce que là, j'ai entendu, moi, des âneries, vraiment des âneries. Tes désirs se porteront vers ton mari. Vous connaissez ce texte? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, écoutez bien, mes frères et sœurs, parce que franchement, j'ai tellement entendu d'âneries, vraiment, même ici, dans des couples. Alors, est-ce que c'est normal qu'une femme veuille désirer son mari? Est-ce que c'est normal qu'un mari désire sa femme sexuellement? Mais il faut le dire. Est-ce que c'est normal? Mais bien sûr que c'est normal. Il n'y a pas de péché dans le fait qu'un homme marié désire sa femme et qu'une femme mariée désire physiquement son mari. Parce qu'à force d'utiliser des versets n'importe comment, on finit par dire des âneries, Parce que si on ne veut pas de rapport sexuel, eh bien, il ne faut pas se marier. Si vous voulez vivre comme... On l'a vu, souvent. Vous savez, ça fait mal au cœur. Hein. Si vous voulez vivre sans relation physique, eh bien, il faut le dire. Eh bien, il faut rester frère et sœur, c'est tout. Non, mais frère et sœur, que vous savez, le témoignage quand même. Vous n'avez pas envie que de rendre un bon témoignage jusqu'à la fin? Si on n'a pas l'intention de répondre aux besoins physiques de son conjoint, il ne faut pas se marier. Et moi, j'ai entendu ça, si vous saviez tout ce que j'ai entendu. Il n'y a pas dans la relation sexuelle, dans le couple, la moindre ombre de péché. Et quand il est dit « tes désirs se porteront vers ton mari », ça veut dire, bien sûr, dans le contexte, puisqu'il y a un contexte, c'est qu'à cause du péché, tu voudras jouer le rôle de l'homme. C'est ça le problème. Que la femme veuille se masculiniser et que l'homme, lui, veuille se féminiser. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'homme qui veut jouer le rôle de la femme, c'est de plus en plus. La femme qui veut jouer le rôle de l'homme, c'est, je peux vous dire que ce n'est pas un signe de progrès, ça. C'est un signe de dégénérescence dans la société, mes frères et sœurs. L'un n'a pas joué le rôle de l'autre. Si vous êtes une femme, soyez une femme. Si vous êtes une mère, soyez une mère. Une mère, une femme, une épouse. Et pareil pour l'homme. L'homme, il doit être un mari. Je ne veux pas dire qu'il faut devenir des Rambo ou des Schwarzenegger. Il faut être un homme. Oui ou non? Mais mes frères et sœurs, c'est important. Ne jouez pas le rôle de l'autre. Soyez la femme que Dieu veut que vous soyez. Soyez l'homme que Dieu veut que vous soyez. Et tout ça dans un contexte où on doit chacun dire mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me demandes? Comment je dois aimer ma femme? Parce que là, c'est, bon, ça, je ne vais pas aborder ce sujet. On le verra si ma santé me le permet. J'espère que je serai là dimanche prochain pour vous parler de ce sujet. Mais mes frères et sœurs, je voudrais que d'une manière heureuse, d'une manière, oui, bénie, nous sachions qu'est-ce que Dieu veut quand il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si vous êtes égoïste, ne vous mariez pas, je vous en supplie. Je vous le dis de la part du Seigneur. Si vous n'êtes pas prêt de vous donner pour votre conjoint, ne vous mariez pas. Femme, soumettez-vous à votre mari. Comment une femme doit aider son mari? Est-ce que tu aides ton mari? Ou est-ce que tu le décourages? Parce qu'on a vite fait, on ne peut pas ne pas décourager que les enfants. On peut aussi décourager son mari. Est-ce que tu peux en parler avec lui? Est-ce que je t'encourage ou est-ce que je te décourage? Parce que des fois, on ne parle pas. Comme cette femme qui est venue me voir avec son mari. J'attends qu'il devine. Non mais, mot pour mot. J'attends qu'il devine. Et je dis, mais madame, il fallait dire le nom. On n'est pas des devins. On est des hommes et des femmes responsables et on doit dire à son mari ce qu'on attend de lui. C'était dans le domaine sexuel, d'accord. Mais on doit le lui dire. J'attends qu'il devine. Ah, frères et sœurs, soyez... Alors nous verrons ces choses. Mais priez pour ça. Vous n'avez pas envie d'être une source de bénédiction dans votre foyer, si vous êtes une femme, d'être une vraie femme. Si vous êtes un homme, d'être un homme. Si vous êtes un père, un vrai père. Et je voudrais que nous comprenions quel est le problème des hommes, quel est le problème des femmes, puisque c'est parlé dans la Bible. Si Dieu dit aux hommes, Marie, aimez vos femmes, c'est que l'homme a du mal à aimer sa femme. Si Dieu dit aux femmes, femmes, soumettez-vous à votre mari, c'est que les femmes, elles ont un problème avec le fait d'aider leur mari. On ne parle pas de soumission bête comme on enseigne aujourd'hui. On doit se soumettre l'un à l'autre dans un couple. Et bien sûr, chacun doit aimer vraiment. Enfin, si vous lisez, aimez-vous comme je vous ai aimé, de dire, mais qu'est-ce que c'est qui ferait plaisir à ma femme? Est-ce que vous avez déjà dit à votre femme? Est-ce que vous avez déjà dit à votre mari? Qu'est-ce que c'est qui te ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce que tu attends de moi? Doucement quand même. Il ne faut pas des listes trop longues. Mais si on honore le couple, si le mariage est honoré dans une église, l'église elle est bénie. Je ne sais pas dans quelle église vous voulez être. Vous êtes dans cette église, Dieu vous y a placé, à part Brice et Delphine qui nous ont, quitter lâcheusement, lâchement.
Oui.
Mais non, c'est je blague. Mes frères et sœurs, dans quelle église vous voulez être? Répondez au Seigneur. Dans quelle église vous voulez être? Les jeunes qui voulaient vous marier, est-ce que vous calculez? Parce que vous savez, le mariage, c'est pas juste le voyage de noces, de la pirogue dans le lagon. Ça sent le monoï et le tiaré ou la rose. Quand il y a les deux ou trois gosses en couche qui pleurent toute la moitié de la nuit, c'est clair que ça change du coucher de soleil aux Antilles. Mais il faut les deux. Est-ce qu'il faut les deux?
Ben oui, il faut les deux.
Et quand on veut se marier, je pense qu'on devrait dire, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. En tous les cas, une chose est sûre, mes frères et sœurs, on ne met pas une pièce de drap neuf sur un vêtement usé. Il faut le changer en entier. Et il n'y a que la grâce de Dieu qui fait ces choses. Et les jeunes qui faites des raisonnements à vos parents, parce que si vous étiez à leur place, vous éduqueriez mieux les enfants, demandez au Seigneur qui vous aide déjà à vous convertir. Parce que ça, vos parents ne pourront pas le faire pour vous. Donnez votre vie au Seigneur, parce que si vous voulez réussir votre couple sans vous convertir, laissez-moi vous dire que c'est cuit d'avance. Vous le savez, en plus vous le savez. Alors moi je crois qu'on a un grand Dieu qui nous a laissé dans son saint livre toutes les instructions pour notre bien. Je t'instruis pour ton bien. J'aimerais qu'on aborde, moi je vous assure, c'est un sujet qui me travaille, ça me travaille. Dimanche prochain on abordera ce sujet d'une manière vraiment sérieuse. Je voudrais que nous apprenions vraiment du Seigneur. Parce que je sais que si les familles sont bénies, l'Église sera bénie. Soyez bénis à la maison, mes frères et sœurs. Soyez bénis à la maison. Soyez des bénédictions à la maison. À la maison. Notre Père, notre Dieu, tu nous instruis pour notre bien. Pour notre bien. Tu nous as laissé ta parole pour notre bien. Nous en sommes convaincus, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas suffisamment pris le temps de méditer ces conseils. Toi, le conseiller, qui n'a pas cessé depuis notre approche de nous conseiller. Pardon pour toutes les fois où nous avons négligé ces conseils. Nous voudrions être que des foyers bénis, Seigneur, dans cette Église. Tous des foyers bénis. Nous demandons ton aide et ton secours lorsque nous lirons ta parole et lorsque nous partagerons ces autres études. Bénis les réunions, celles de cet après-midi, les réunions du mardi, du jeudi, de la jeunesse. Que tous ces jeunes, Seigneur, et que tous nos enfants puissent fonder des foyers pétris d'altruisme, où nous nous donnerons l'un pour l'autre, les uns pour les autres, dans l'Église, au travail, partout où tu nous auras place, afin que nous aussi, nous sachions, comme nous l'avons si bien chanté ce matin, nous humilier, parce que tu fais grâce aux humbles. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.